Si vous vous promenez dans le cimetière du Père-Lachaise, dans la partie est de Paris, vous aurez peut-être la surprise de croiser la tombe d'un certain James Douglas Morrison. Il s'agit en fait du chanteur du groupe The Doors, un des groupes les plus connus des années 60. Si j'ai choisi de vous parler de sa mort aujourd'hui, c'est parce qu'elle est remplie de mystères que je trouve fascinants. C'est parti, on va revenir à la source de celui que l'on nomme parfois le roi lézard, suite aux paroles d'un de ses poèmes. En 1943, à Melbourne, non pas en Australie mais en Floride aux États-Unis, le petit James naît d'un père officier de la marine américaine et d'une mère femme au foyer. Il sera l'aîné de sa fratrie. Vous avez peut-être fait le lien, il est né pendant la Seconde Guerre mondiale et son père travaille dans l'armée américaine. Il passe donc une jeunesse assez mouvementée puisque, en 10 ans, sa famille déménage presque 10 fois. Et il vit assez mal cette jeunesse mouvementée. Il a déjà des comportements assez étranges. Suite à une scène choquante de son enfance, liée à un accident grave au Nouveau-Mexique, Jim aurait subi un transfert d'âme. Ce témoignage va contribuer à lui forger une image de poète maudit. Il a donc une image assez mystique. Dans son autobiographie, on raconte qu'il avait un comportement terrible avec son petit frère, qu'il le martyrisait et qu'il était très étrange dans ses comportements avec les autres gens. Néanmoins, Jim avait de très bonnes notes à l'école. On dit qu'il avait un QI de 149, donc très élevé. Un QI classique, c'est environ 90 à 110. Et pour information, on estime à 160 le QI de Einstein. Bref, Jim Morrison fait des études de psychologie et de philosophie, puis quelques années plus tard, de cinéma. Ses études ne se soldent pas par de bons résultats, et en 1965, c'est-à-dire à 22 ans, il décide de fonder un groupe de rock, les Doors, avec Ray Manzarek à l'orgue et John Densmore à la batterie. Un an plus tard, Jim sort avec Pamela Corson, une étudiante en art avec qui il commence à consommer plusieurs drogues. La même année, le groupe de musique rentre dans la légende du rock en signant 6 albums chez Elektra avec des chansons mythiques comme Light My Fire. Je vous ai mis un petit extrait ici. Jim est très provocateur, excentrique, et grâce à son physique avantageux, il devient une des sex-symboles des années 60. Cela va pas durer longtemps, car en 1969, lors d'un concert à Miami, c'est une foule enragée qui vient écouter The Doors. Les organisateurs ont vendu beaucoup trop de tickets par rapport au nombre de places disponibles. La foule est tellement enragée que le concert devient une catastrophe. Jim provoque tout le monde, et faut savoir qu'il éprouvait souvent un certain plaisir à énerver le public pendant ses concerts. Là, ça ne rate pas du tout, et ça crée même des émeutes. Mais ce n'est pas tout. Jim en vient même à se déshabiller sur scène, complètement ivre. L'année suivante, il sera jugé et condamné à 8 mois de prison. Il est libéré quelques temps après grâce à son avocat, et en 1971, on retrouve un Jim déprimé et fatigué. Il décide de s'exiler à Paris. Ces derniers temps, plusieurs stars du rock sont décédées très tôt, comme Jimi Hendrix, Janis Joplin ou encore Brian Jones des Rolling Stones. Lors de sorties avec ses amis, il leur dira « Je suis le prochain ». Le 5 juillet, une rumeur commence à courir comme quoi Jim Morrison serait mort. Il s'est exilé depuis le printemps à Paris, dans le 4e arrondissement, à deux pas de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le lendemain, Bill Siddons, son manager de l'époque, se rend à son domicile et il découvre Jim dans sa baignoire, décédé. Et c'est là que ça nous intéresse beaucoup, puisque le mystère se trouve autour de sa mort. Peu après l'annonce de sa mort, on commence à croire à une théorie du complot. Alors vous allez me dire, ça arrive avec quasiment tous les artistes. Mais là, il y a énormément de points qui vont être intéressants. Les éléments qui poussent à croire à cette histoire sont les suivants. Son manager n'a pas vu le corps de Jim lors de l'enterrement. Ça, c'est le premier point. Aucune autopsie n'a été pratiquée sur le cadavre. C'est le deuxième point. Le soir de sa prétendue mort, il aurait été aperçu dans un bar à Pigalle et serait mort d'une overdose d'héroïne. Donc la version officielle, ça aurait été donc inventé. Et ça aurait permis au bar en question d'éviter de fermer. Donc cette histoire, c'est la version de Samuel Burnett, un journaliste de rock. Ensuite, il y a une autre version qui affirme qu'il se serait noyé dans sa baignoire après une soirée très arrosée, en compagnie de sa femme Pamela. Le point qui cloche là-dedans, c'est que sa femme elle a été écoutée plusieurs fois par rapport à la mort de son mari, et elle a donné à chaque fois des versions différentes. Donc là, pour le coup, on peut se permettre de douter. Il y a une autre rumeur qui vient de Marianne Faithfull, donc c'est une chanteuse et une actrice britannique. Elle raconte que le dealer de Jim Morrison, il aurait volontairement fourni une dose létale d'héroïne au chanteur. Enfin, la dernière rumeur est un peu idéaliste. Elle prétend que Jim aurait préparé un départ définitif, l'annonce de son décès étant en quelque sorte une couverture. Mais bon, ce genre d'histoire, on peut les retrouver pour la mort de tous les chanteurs, ou presque. Pour le coup, on n'a aucune preuve. Mais ce qui est intéressant, c'est que Steve Manzarek, donc le pianiste du groupe de Jim, les Doors, il est partisan de cette théorie. Donc ça appuie un peu plus la probabilité que ça soit vrai. Dans tous les cas, Jim est officiellement mort d'une crise cardiaque le 3 juillet 1971 à Paris. Sa vie d'excès ne pouvait que confirmer cette hypothèse émise par les pompiers. À l'époque, la mort de la rockstar a failli provoquer des incidents politiques. En effet, le ministre de l'Intérieur français Raymond Marcellin craint le scandale médiatique et, afin d'éviter l'incident diplomatique, celui-ci aurait tenté d'étouffer la mort de Jim Morrison en bâclant les enquêtes policières. Bon, c'est encore une autre théorie qui est toutefois probable. C'est donc à 27 ans que s'éteint un des rockers les plus connus de tous les temps. Il rejoint alors ce que l'on appelle le Club des 27, qui compte déjà ses confrères morts quelques mois avant lui, donc on a cité avant. Comme Jimi Hendrix ou Janis Joplin. On dédiera sûrement un épisode de ce Club des 27, parce que c'est un regroupement d'artistes décédés qui est extrêmement connu dans le monde de la musique. Pour ceux qui ont aimé cet épisode, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les différentes plateformes de streaming, à me le faire savoir, à liker et commenter sur Apple Podcast. La source.